Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et la radio rend hommage à la presse écrite cet après-midi chez Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. En cette fin de campagne électorale, les journalistes se démènent plus que jamais, mais à l'heure où Internet acquiert une importance considérable, c'est au cœur, c'est à l'origine du métier, à la bonne vieille presse écrite que nous allons en effet consacrer cette émission.
Et on rappelle tout de même à nos auditeurs justement que leurs questions et leurs remarques sont les bienvenues sur notre site internet le www.europe1.fr.
Exactement, nous aimons bien communiquer de cette façon. L'ouvrage qui sert de socle à cette émission s'intitule « La civilisation du journal ». Il évoque l'histoire de la presse française au 19e siècle essentiellement. Il ressuscite les grandes plumes qui à l'époque ont hissé le journalisme au rang d'un art. On a du mal de nos jours à réaliser à quel point les journaux de papier, ont transformé la vie de nos arrière ou arrière-arrière grands-parents.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Je n'ai pas fait l'expérience ce matin au sein de la rédaction d'Europe 1, qui a sans doute d'autres chats à fouetter, mais j'aurais dû, car aujourd'hui encore, si vous demandez à un journaliste de vous citer la loi régissant la liberté de la presse en France, il vous répondra du tac au tac, c'est la loi du 29 juillet 1881. Depuis 131 ans. C'est évident, bien des choses se sont passées dans l'histoire du journalisme. La presse française a connu pas mal de vicissitudes. Il n'empêche, le principe essentiel, le principe régulateur de la liberté de la presse n'en reste pas moins cette fameuse, cette sacro-sainte loi du 29 juillet 1881 qui par ailleurs régit l'affichage public. Vous savez, c'est pour ça que cette date vous dit peut-être quelque chose. Vous la voyez souvent écrite au pochoir sur les murs interdits d'affiches. Loi du 29 juillet 1881. La presse, au sens de journalisme, existe en France depuis bientôt 400 ans. C'est en 1631 que Théophraste Renaudot, un Poitevin né à Loudun, a fondé sa gazette hebdomadaire. Alors je précise tout de suite, pour éviter les courriers inutiles, qu'une feuille du même genre avait déjà vu le jour, elle avait été publiée à Strasbourg dès 1605. Dans la foulée, de nombreuses gazettes, des feuilles de toutes sortes vont voir le jour au XVIIe, au XVIIIe siècle. Vous savez bien le rôle qu'a joué la presse, notamment sous la Révolution. Bonaparte réorganise tout ça, comme il le fait toujours. C'est notamment le décret du 17 janvier 1800 qui, sur les 70 journaux parisiens de l'époque, en maintient seulement 13. Ils ne seront plus que 4 autorisés en 1811. Et encore, il faut savoir que Bonaparte, en fait, se fiait essentiellement au Moniteur, dont il était tout. Un historien du consulat nous dit, il est directeur, il est rédacteur en chef, il contrôle les informations, il veille à la mise en page, il critique les articles, il scrute les dépenses, il s'intéresse au tirage et à la circulation. Bref, il remplit toutes les obligations professionnelles du journaliste à qui serait confiée la fortune du journal. En vérité, Bonaparte ne fait qu'une chose, il contrôle l'information. Il la contrôle tellement que je vous dis qu'à la fin de l'Empire, il ne restera plus que 4 et même effectivement que 3 journaux autorisés. Mais comme Napoléon lui-même le disait à Sainte-Hélène, à la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Ce qui fait qu'après lui, sous la Restauration et surtout sous la monarchie de Juillet, le nombre des titres va faire floresse, des titres qui défendent des opinions très variées, car les journaux, en ce milieu du XIXe siècle, relèvent pour la plupart de ce qu'on appelle la presse d'opinion. On s'abonne à l'époque à un journal, surtout pour savoir quoi et comment penser. Nous reviendrons tout à l'heure sur les grandes plumes qui, à partir du règne de Louis-Philippe, vont élever le niveau de la presse. Attardons-nous, pour le moment, aux révolutions techniques qui vont donner un coup de fouet aux journaux. D'une part, vous avez toutes les innovations extérieures, si je puis dire. Le télégraphe, bien entendu, qui prend une extension considérable dans les années 1830 et qui active la circulation des nouvelles. Il faudrait parler aussi du câble sous-marin. Les agences de presse viennent se greffer sur cette première invention. L'agence Havas, par exemple, est fondée en 1845. Et puis, un certain nombre de pratiques qui vont devenir consubstantielles à la presse. Je pense à la publicité, bien entendu. Publicité qui va donner à la presse, au tournant des années 1860, une nouvelle raison d'être, en même temps que de nouveaux moyens de développement. Et puis d'autre part, il y a les innovations intrinsèques, celles qui concernent directement la fabrication des journaux, à commencer par la presse rotative, bien entendu. Cette invention de la presse rotative qui nous vient au départ des États-Unis à la fin des années 1840 et qui va permettre 20 ans plus tard de faire exploser la diffusion en France. On va augmenter considérablement les tirages et on va aussi pouvoir faire baisser le prix unitaire des journaux. De plus en plus de journaux spécialisés voient le jour, mais aussi et surtout des journaux populaires comme le Petit Journal qui remporte d'emblée un succès énorme sous le Second Empire. Ce sont des journaux de format moyen, qui sont donc assez pratiques à manier, d'éditions multiples, ce qui permet de plus en plus de coller à l'actualité. Tout est relatif évidemment, on est encore loin de CNN. La feuille de chou ne coûte plus que 5 centimes au lieu de 15 ou 20, elle est vendue en kiosque ou à la criée et plus seulement sur abonnement. Elle est bourrée, vous allez le voir, de rubriques, de feuilletons, de faits divers. Bref, on s'éloigne un peu de la presse d'opinion pour évoluer vers une presse d'information et de distraction. Et voilà qu'en 1881, vous voyez que j'ai de la suite dans les idées, Fatima, je reviens à ma loi du 29 juillet, voilà que la République, ça nous paraît évident, mais à l'époque c'est une incroyable révolution, la République vote donc une loi selon laquelle désormais l'imprimerie et la librairie sont libres. En pratique, ça veut dire que tout le monde a le droit, moyennant quelques formalités, d'éditer et de diffuser un journal. Le droit, je dis bien, ça ne veut pas dire forcément les moyens, ça c'est une toute autre question. Lors des débats à la Chambre, les débats préalables au vote de cette fameuse loi, les députés se sont beaucoup écharpés sur les responsabilités encourues sur les crimes et délits liés à l'existence, à l'exercice du journalisme. Ce qui compte, c'est qu'on ait supprimé dans le texte définitif quasiment tout ce qui relevait du délit d'opinion. Je dis quasiment car le législateur, héritier plus ou moins inconscient de 15 siècles de monarchie, a tout de même maintenu le délit d'offense au chef de l'État. Le sénateur Pelletan avait été, 30 ans plus tôt, un proche collaborateur du grand patron de presse Émile de Girardin, le fondateur du journal La Presse, qui sous la monarchie de Juillet était l'organe des libéraux, et au passage l'inventeur du roman feuilleton. Voici ce qu'écrit le sénateur Pelletan en 1881 à propos de cette nouvelle loi. Elle écarte tous les dangers imaginaires, tous les délits arbitraires qui n'étaient que des réminiscences du Moyen-Âge égarées dans la presse moderne. Le Moyen-Âge a bon dos aux heures faciles de la République modérée. Du reste, Clémenceau, comme toujours, est allé plus loin. À la tribune de la Chambre, l'ultra-républicain a déclaré « Je viens vous demander qu'on puisse impunément outrager la République ». Et il ajoute avec ce sens de la nuance qu'on aime tellement chez lui « La République vit de liberté, elle pourrait mourir de répression ».
C'est l'ouverture du Barbier de Séville composé par Rossini. Reste à l'écoute d'Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant.
.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et cet après-midi, Franck Ferrand met à l'honneur la presse écrite.
Eh oui, la presse écrite. Alors j'ai sous les yeux une sorte de tiré à part. Ce n'était pas un tiré à part, c'était un supplément spécial qui était paru dans le quotidien de Paris le 29 juillet 1980. C'était donc évidemment pour le centenaire de cette fameuse loi. Ça s'appelait 1881-1980, 100 ans d'une certaine liberté de la presse. Et c'est Gérard Leclerc, figurez-vous, qui signait un très grand article sur ce centenaire et sur cette histoire de la loi du 29 juillet 1881. Une loi sur la presse qui est votée à la quasi-unanimité. 448 voix contre 4 à l'époque. Il faut vous dire que ça a été une période, hein, on peut presque considérer, en tout cas un certain nombre d'historiographes ont pu le dire, que cette loi sur la presse était un peu la véritable naissance de la Troisième République. Une Troisième République qui, dans les années 1870, était née un peu en catimini et sans trop savoir où on allait. À partir du début des années 80, on sait très bien, et cette liberté de la presse pose en quelque sorte les bases, le socle de cette République qui vivra 70 ans, vous savez. Alors évidemment... on est à une époque où il y a quand même 600 titres de presse quotidienne. Vous imaginez, ça nous fait complètement rêver. Rien qu'à Paris, si l'on prend tous les titres, alors pas seulement les quotidiens, mais rien qu'à Paris, on a 80 et selon les années, 80 et 90 quotidiens entre 1881 et 1914. Hein, c'est considérable. Après la Première Guerre mondiale, ce nombre, évidemment, diminuera. En 1919, on verra une véritable hémorragie. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure sur ce changement du nombre des titres. Mais il n'y a pas seulement le nombre des titres, il y a les tirages qui sont considérables, avec 4 quotidiens de plus d'un million d'exemplaires en 1900. Évidemment, ça fait rêver, c'est tout à fait extraordinaire l'ampleur, l'impact que pouvait avoir cette presse, et notamment cette presse quotidienne à l'époque. C'est sans doute à, nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités, mais c'est sans doute à comparer avec ce qui se passe en ce moment du côté d'Internet, évidemment. Alors la publicité trouve naturellement place dans les journaux. Cette industrie est liée aussi au développement de la technique, nous explique Gérard Leclerc. Marinoni, le mécano d'Émile Girardin, décidément, nous revenons à ce grand patron de presse. Marinoni donc avait mis au point des rotatives de plus en plus puissantes. En 1886, on en construit une, nous dit-il, de 50 mètres de long. Et en même temps, parce qu'il ne faut pas oublier ça, en même temps, le chemin de fer permet d'acheminer la presse le plus loin possible de la capitale, chaque jour, ce qui fait qu'évidemment, on a le journal frais. Vous savez, on a toujours cette image du correspondant de presse qui arrive pour donner son billet, qui en même temps récupère le ballot de presse qui lui arrive, bien entendu, encore, j'allais dire, encore fumant de la capitale. Et puis, simultanément, l'alphabétisation liée à l'école obligatoire va permettre de répandre, d'augmenter considérablement le lectorat. Donc, des rotatives immenses, un chemin de fer qui se répand sur le territoire et un public de plus en plus alphabétisé, tout ça va donner à la presse évidemment les instruments de son explosion, de l'incroyable rayonnement qui est le sien à la fin du 19e siècle. Alors, les seules grandes périodes de limitation de cette liberté de la presse instituée par la loi de 1881, si l'on enlève la loi de 93 sur la répression de l'anarchisme, bon, enfin ça c'est vraiment une exception législative, les seules périodes, ce sont les périodes de guerre. C'est notamment bien sûr la Première Guerre mondiale avec l'instauration d'une censure sur laquelle nous allons revenir dans un instant. C'est évidemment la période de l'occupation. Alors, qui dit période de l'occupation suppose qu'on parle aussi de la période de la libération avec la suppression d'un certain nombre de titres accusés de collaborationnisme. Et puis aussi, on a tendance à l'oublier, les guerres coloniales et notamment spécialement la guerre d'Algérie qui va faire quelques victimes dans la presse aussi. Nous en parlerons dans un instant. Je cite de nouveau Gérard Leclerc. Bernanos s'indignait il y a 35 ans, dit-il, alors on est là en 1981, donc il y a 30 ans hein, de cette histoire, 31 ans, il s'indignait de l'interrogation de Lénine, la liberté pour quoi faire ? La liberté se justifie par elle-même, tout comme les libertés qui se prennent et ne s'octroient pas, écrit Gérard Leclerc. Pour le reste, il y a l'honneur de la presse et des journalistes qui consiste pour eux à mériter, par leur travail, le privilège inconditionné de la liberté. Cet article, je vous l'ai dit, a donc été publié dans le Quotidien de Paris. Le grand patron du Quotidien de Paris de l'époque, c'était bien sûr Philippe Tesson, qui est avec nous dans ce studio. Je suis ravi de l'accueillir. De même que nous aurons le professeur Dominique Khalifa, qui est l'un des directeurs de l'ouvrage collectif La civilisation du journal, une sorte d'énorme somme sur la presse qui paraît en ce moment aux éditions du Nouveau Monde.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand a décidé de vous conter la mémoire de la presse écrite.
Et ce qui est amusant, c'est qu'avant même que les micros ne s'ouvrent, Philippe Tesson est déjà lancé, si je puis dire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous rappelez, bien sûr, ce centenaire de la liberté de la presse.
Tout à fait. Je me rappelle d'ailleurs que nous avions décidé de faire cet encart. C'est un encart, hein, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça, exactement.
Parce qu'à l'époque, le journal s'était engagé dans un combat un peu aveugle contre l'arrivée de la gauche au pouvoir. Moi, je politise un peu la chose, mais c'est l'actualité. Mais après tout, je suis journaliste, je peux me référer à l'actualité. Et oui, nous avions décidé de faire ce que nous imputions à François Mitterrand, des intentions que d'ailleurs l'avenir ne devait pas confirmer, bien au contraire d'ailleurs, des intentions liberticides en matière de... Je voudrais ajouter, si vous permettez...
De radio, notamment.
Oui, et de télévision. Oui, J'ai dit, il y a eu des tentatives. Enfin bref, bon, c'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Je voudrais ajouter à ce que vous avez dit, vous avez cité quelques exceptions à ce long fleuve tranquille vers la liberté de la presse. Vous avez cité notamment l'occupation. Il y a eu aussi vous avez parlé de la période algérienne.
Oui, bien sûr. Hein, bien sûr.
J'étais à l'époque pendant l'affaire d'Algérie, c'est-à-dire de 60 à 74, j'étais rédacteur en chef de Combat. Mm-hmm. J'ai comparu 32 fois entre 62 et 69, 32 fois devant la 17e chambre de correctionnel, qui était présidée à l'époque par une femme qui est devenue, qui a eu des responsabilités au parquet un peu plus tard, mais enfin, peu important. J'ai comparu 32 fois pour offense au chef de l'État sous le régime du général de Gaulle. Oui. Et pas seulement d'ailleurs concernant des affaires relatives à l'histoire algérienne, au conflit algérien, mais des histoires relatives à sa politique intérieure. 32 fois en 7 ans, entre 1960 et 1974, c'est-à-dire hier.
Oui, on a toujours l'impression que c'est la presse de gauche ou d'extrême gauche qui était visée par le pouvoir, enfin par la justice en
non,
l'occurrence.
C'était la liberté, et puis oui, c'est tout. Qui était en cause. Tant il est vrai que la loi de 1980 et de 1880 est une très 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 bonne loi, mais comme toutes les lois, elle a une dimension liberticide.
On peut rappeler aussi que...
Car elle énonce elle pose des limites à cette fameuse liberté. On les connaît d'ailleurs, ces limites. Elle est merveilleuse, cette loi. Mais enfin, n'exagérons pas. Elle ne nous permet pas, à nous journalistes, de faire n'importe quoi.
Oui, c'est ça. Elle pose des cadres, cette loi.
Cela dit,
est-ce
que n'importe quoi est légitime? Est-ce que n'importe quoi est utile à la vie de la démocratie? Je le crois personnellement.
Dominique Khalifa.
Elle a néanmoins été critiquée, et y compris à gauche, pour des raisons qui peut-être un peu plus curieuses à comprendre, mais finalement, certains l'ont estimée trop libérale, et ne permettant pas effectivement de réprimer, comme on peut le réprimer, par exemple, la diffamation. Mm-hmm. Lors de l'affaire Salingros, mm-hmm, en 1936, le gouvernement du Front Populaire va même tenter, à un moment effectivement, de trouver les moyens de parvenir à mieux équilibrer quand même, et à limiter les abus majeurs, qu'une presse à chantage, qu'une presse extrêmement violente, qu'une presse avec des attaques ad hominem très, très fortes pouvait lancer. On n'y arrivera pas, effectivement, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est une loi qui est matricielle dans la conception même des valeurs républicaines. Mais il y a eu aussi ces tentatives assez importantes. Certains ont dit, finalement, l'impunité. Mmh. Hein, mais ça, bien sûr, ça ne concerne pas les périodes que vous évoquez, oui. les rares périodes de censure qui ont effectivement été limitées à ces quelques moments de conflit.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, le Second Empire était tombé depuis 11 ans et qu'on avait connu, notamment sous ce Second Empire, on pourrait faire la liste, oui, de tous les régimes et de leur rapport plus ou moins difficile avec la presse, mais on avait connu là une période de très grande embrigadement, si je puis dire.
Vous touchez là un point qui est majeur, qui est que les grands fondateurs de la République, hein, ces hommes qui vont être les piliers de la Troisième République, sont tous des hommes dont la génération a vécu le Second Empire et qui ont vécu les prisons du Second Empire. Sainte-Pélagie, hein, célèbre prison où les journalistes étaient enfermés, c'était le paradis du journaliste d'une certaine manière. Il y a même eu à un moment un journal de Sainte-Pélagie, tellement tous ces hommes ont fait l'expérience de la répression et de la censure journalistique, et ils ont posé effectivement comme une valeur fondamentale la liberté des journaux. C'est avec la grande loi sur l'école que vous évoquiez tout à l'heure et la liberté syndicale.
Les trois grandes lois fondatrices de la Troisième République. On pourrait même se dire qu'on est à une époque où le législateur, et on a entendu la phrase un peu dément, enfin j'allais dire dément, très excessive de Clémenceau, mais en même temps assez belle, puisqu'il dit « je veux qu'on autorise, qu'on rende possible d'outrager la République hein, ».
Cela dit, durant toute la première partie, enfin durant toute la Troisième République, l'extrême gauche comme l'extrême droite, les deux extrêmes, auront été très surveillés, la presse anarchiste, la presse syndicaliste révolutionnaire et, de l'autre côté, la presse nationaliste et la presse, puis la presse d'extrême droite seront quand même surveillées infiltrées. Et vous savez, le premier journal communiste, le premier journal bolchevique créé en France, qui s'appelait Le Bolcheviste en 1917, l'a été avec des fonds de la préfecture de police. Donc on a quand même aussi conservé une longue tradition de l'infiltration.
Bien entendu, il y a la vraie liberté et puis la fausse. Il ne faut pas tout voir avec des yeux de Candide.
De toute façon, la République a ses ambiguïtés comme toute espèce de régime.
Mais évidemment.
Mais il se trouve qu'elle est bonne fille, alors on lui pardonne ses compromissions.
Philippe Tesson a absous la République.
On est d'accord.
Nous allons voir dans un instant que, au moment où intervient cette loi de 1881, on est en plein reflux néanmoins de la presse d'opinion au profit d'une nouvelle forme de presse qui est déjà une presse d'information. Je sens déjà des nostalgies s'exprimer autour de cette table.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et ce jeudi, Franck, vous avez décidé de nous parler de l'évolution de la presse écrite.
Et oui, en compagnie de Dominique Khalifa, qui est professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est l'un des directeurs de cet ouvrage intitulé « La civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle ». C'est édité chez Nouveau Monde. C'est un pavé, mais il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'on peut se promener dedans. C'est un de ces livres qu'on n'est pas obligé de lire de la première à la dernière page. On peut aller en fonction de ses centres d'intérêt ou de son humeur du moment, d'un portrait de grand auteur à une analyse sémiotique sur l'évolution de la presse au début du XXe siècle, par exemple. Exactement, on zappe, nous avons une culture de zapping
hélas.
Aujourd'hui, malheureusement, hélas, nous dit Philippe Tesson, que je n'ai même pas besoin de présenter, qui est un peu, est-ce qu'on peut dire que vous êtes la mémoire vivante de la presse écrite? Vous incarnez cette dimension-là dans le paysage culturel de la France.
Je suis le doyen biologique, voilà tout.
Et spirituel.
J'ai 85 ans et je suis entré dans la presse, je suis entré à combat à 30 ans, voilà. J'ai donc 55 ans, comme vous dites, de mémoire et d'expérience, mais dans un
vous
journal...
Très...
Attention, c'est d'ailleurs très intéressant notre confrontation, malheureusement nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin, car je suis finalement un journaliste beaucoup plus proche du 19e siècle que du 20e, j'entre totalement, je ne vois pas pourquoi vous m'avez évacué de votre livre, je suis vraiment survivant du 19e siècle.
Et j'en
suis fier, ça ne m'empêche pas de faire un peu de radio et de télévision, mais enfin, ma culture est une culture du 19e siècle, et mon style, pour autant que j'en ai un, et ma culture de la presse, et ma vision de la presse est plus proche du 19e siècle que du 21e.
Vous me disiez dans le couloir en arrivant que vous êtes entré à combat presque par hasard.
Enfin, oui, en tout je ne viens pas de journaliste, voilà, je viens d'université, mais je l'ai déserté, excusez-moi. Alors que j'avais 30 ans, je suis entré par hasard à combat comme rédacteur en chef, sans expérience du journaliste. Pour autant qu'il fût agi d'un journal, enfin, c'en était un. Voilà, mais...
Quelles étaient les références? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme modèle, si on vous en a donné?
Aucun. Le patron, le financier, le propriétaire de combat était un Tunisien qui voulait entrer dans la vie politique française par le truchement de la presse, car c'était un homme de presse à Tunis, et il choisissait tout simplement, il avait jeté son dévolu, il avait besoin d'un jeune universitaire occidental, il était tunisien, je le répète, capable de traduire sa propre pensée, sa propre vision de la presse. Il ne pouvait pas le faire, puisque de nature, il n'était pas de culture française. J'étais donc son scribe, un peu c'est tout, comme j'étais intéressé par l'histoire et par la vie politique et par la vie culturelle, voilà, j'ai fait l'affaire et j'ai appris sur le tas. C'était l'époque où il y avait très peu d'écoles de journalisme. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y en a énormément. Il y a moins de journaux, mais comme vous dites, il y avait 600 journaux, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il reste une dizaine de quotidiens nationaux, mais il y a également une dizaine d'écoles. Enfin, c'est un autre problème.
Ce que vous dites,
Dominique Khalifa.
Ce que vous dites est majeur, parce que je crois que le livre qu'on a voulu faire, qui parle essentiellement du 19e siècle, on aurait pu, sans aucune difficulté, le prolonger jusque, on va dire, autour de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1944. Jusqu'à cette table rase, et donc vous rejoindre presque au moment de combat. Mais vous me disiez tout à l'heure que le livre était déjà très gros, et il l'est, donc on a hésité, on fera peut-être un second tome. Je voudrais juste dire un mot par rapport à Franck, à ce que vous disiez à propos du bouquin. C'est un gros livre, oui, mais c'est un livre dans lequel je crois on peut se promener à la recherche d'éléments très différents. Il y a à la fois tout ce que le lecteur a besoin de savoir pour comprendre l'économie, la technique, l'entreprise, les modalités d'écriture. Et puis, il y a donc des informations. Et puis, il y a aussi des analyses beaucoup plus amples, beaucoup plus culturelles ou beaucoup plus littéraires. Et je crois effectivement qu'on peut y trouver vraiment son affaire en se promenant, même si effectivement les pages sont denses. Mais
alors,
voilà.
Dans un instant, nous allons venir à la façon dont les journaux se sont peu à peu constitué. Comment en est-on arrivé au format, à l'organisation des pages, à l'installation d'un rythme qui sont ceux d'aujourd'hui? Nous allons y venir dans un instant. Ce que j'aimerais auparavant, et puisque Philippe Tesson se proclame homme du 19e siècle, c'est que nous revenions sur un certain nombre des pères fondateurs de ce qu'on appelle la presse. Ce qui est fascinant dans l'espèce de galerie de portraits que vous nous proposez dans cet ouvrage de Dominique Khalifa, avec tous ceux qui y ont contribué, hein, car c'est un ouvrage collectif,
61
auteurs. Ça n'est pas un dictionnaire d'ailleurs, c'est plus intelligent que ça, si je puis dire. C'est en tout cas beaucoup mieux ordonné, d'une façon moins classique, moins obligatoire. Mais ce que vous montrez dans cette galerie de portraits, c'est qu'il y a beaucoup de grandes plumes, un grand nombre de littérateurs, un grand nombre d'écrivains se sont exercés au métier de journaliste.
Tous les écrivains, je pense qu'on peut aller jusque-là, de Balzac à Peggy, et en passant par Hugo, évidemment, Lamartine, Chateaubriand, Mallarmé, Baudelaire, tout le monde. Vous mettez l'accent sur un point qui est fondamental. Le sous-titre de ce livre, c'est Histoire culturelle et littéraire. Et les amis littéraires avec lesquels on a travaillé ont vraiment défendu l'idée suivante. Ce n'est pas seulement des écrivains qui écrivent dans les journaux. Oui, bien sûr, c'est ça, les écrivains. Mais c'est aussi que quelque chose de la littérature se passe dans le laboratoire, dans l'atelier du journal, c'est-à-dire qu'une large partie de l'innovation littéraire du 19e siècle et au-delà passe à travers effectivement ce laboratoire. On pourrait citer le poème en prose, on pourrait citer beaucoup d'autres choses, mais ça, je crois que c'est un point qui est capital et qui n'avait pas été montré jusque-là.
Vous citiez Balzac, pardon. Balzac écrivait « La presse, comme la femme, est admirable et sublime quand elle avance un mensonge. Elle ne vous lâche pas qu'elle ne vous ait forcé d'y croire. Et elle déploie les plus grandes qualités dans cette lutte où le public, aussi bête qu'un mari, succombe toujours. »
Vous voyez à quel point, d'ailleurs, la phrase est littéraire. Littérature. Mais j'ajoute que excusez-moi, je viens au 20e siècle et au 21e, mais c'est peut-être pas votre propos. Le 19e siècle est un siècle dominé, gouverné, où l'esprit est gouverné par la littérature. Qu'il s'agisse aussi bien de la littérature romanesque que de la littérature théâtrale. C'est le triomphe du théâtre, qui n'est pas sans rapport avec la presse. Enfin, nous n'avons pas le temps d'évoquer cette chose. Le XXe siècle, la littérature est évacuée au XXe siècle. Le XXe siècle, surtout à partir de sa deuxième moitié, est dominé par ce qu'il est convenu d'appeler, mais je le dis avec ironie, mais pas avec mépris, bien sûr, mais ça m'agace quand même, dominé par les sciences humaines. Les sciences humaines ont infiltré, à partir de l'après-guerre, ont infiltré la presse, je vous regarde avec méchanceté, la presse périodique comme la presse quotidienne. Il n'y a pas de journal aujourd'hui. On invite très rarement les écrivains. Il y en a quand même encore.
Oui, mais presque dans des pages à part.
Tandis que les universitaires ont envahi comme les fourmis envahissent la charogne.
Est-ce que la presse est le refuge de l'université?
Je voudrais ajouter ceci. Il n'y a pas de bons journaux qui, même des journaux populaires, je vois même maintenant aujourd'hui le Parisien. Alors ne parlons pas évidemment de Libération et du Monde. Il n'y a pas de journaux qui ne fassent appel à ce qu'ils appellent des experts dans chacun de leurs numéros pour commenter les événements et l'actualité. Alors qu'au 19e, c'était les grands écrivains qu'on invitait. Vrai ou faux?
Oui et non. Je suis assez d'accord sur le constat. C'est-à-dire que la littérature, et je dirais même plus le roman, est la forme reine à travers laquelle la société du 19e siècle se regarde, se contemple, s'identifie, s'évalue. Et ça, effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose qui s'est progressivement défait au 20e siècle, parce que d'autres formes de fiction, d'autres formes de récits, et je pense notamment à tout ce qui relève de l'image, ont pris le relais. Le rapport à l'université, je ne suis pas si certain, bien sûr, je suis comme vous, les experts, mais l'homme de lettres, le romancier était un expert, l'homme de lettres était un sociologue, l'homme de lettres était au 19e siècle.
Pas au même titre qu'aujourd'hui. Dans la bouche d'un universitaire, je rends hommage à cette vision que vous avez des choses. Enfin, vous êtes quand même, par exemple, vous êtes en matière de presse beaucoup plus expert et beaucoup plus intéressant. Enfin, vous avez au fond les choses, vous avez un savoir, une culture beaucoup plus expert que n'importe quel écrivain. Cet écrivain, vous personnellement, fut-il en même temps un ancien journaliste. Je pense à Jean d'Ormesson. Je préfère, moi, vous lire sous votre plume. C'est plus exact.
Merci.
C'est une vérité scientifique. Hein. Mais enfin, bref, mais il y en a une. C'est plus ce que vous écrivez sur la presse est plus exact que ce qu'écrirait un écrivain, encore une fois, écrivain journaliste comme Jean d'Ormesson.
Finalement, la spécialisation, l'expertise,
c'est
qui sont les.
Du siècle.
Ce sont les
et
mots
c'est le bien du siècle. Et voilà. Voilà.
C'est à double tranchant.
Alors, au 19e siècle, que faire de Guizot ? Il est à la fois journaliste, écrivain,
historien,
universitaire et homme politique.
Oui, il est homme politique.
Il est historien.
Il devient
historien.
Politique. Oui. Il y a dans cette presse que nous avons aimée, il y avait un suc spécifique. Il y avait quand même cette envolée littéraire qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Il y a encore quelques-uns, Philippe Tesson en fait partie évidemment, il y a encore quelques grands éditorialistes, mais il y en a de moins en moins. Vous parlez dans cette galerie que vous nous présentez de tous ces grands auteurs, de ces grands écrivains qui ont contribué à des journaux et pas les moindres. Vous mettez par exemple en exergue Leroux. C'est vous qui signez l'article
de Leroux.
Gaston Leroux, hein, le père d'Arsène Lupin. D'ailleurs, nous consacrerons...
Rouletabille, hein.
De Rouletabille, oui.
Non, c'est Leblanc. Là,
c'est Leblanc, Lupin, oui. Là, on est dans le roman d'énigme de la fin du 19e siècle. Vous parlez de son écriture polyphonique qui mélange tous les genres, tous les styles, une écriture sursaturée de références hétéroclites à Homère, à Sophocle, à Shakespeare, à Balzac, Hugo, Dumas, Voltaire, Rousseau et tant d'autres. Vous dites ce pot pourri nous renvoie à la page du journal, à ce kaléidoscope imprimé qui contient toutes les nouvelles du monde, les mêle, les agite, les régurgite. C'est le journal qui continue d'écrire avec et dans Leroux la culture journalistique qui façonne son écriture.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Figaro, sur quoi ? Figaro, sur quoi ? Figaro quoi ? Figaro là ? Figaro quoi ? Figaro là ? Figaro sous ? Figaro joue ? Figaro sous ? Figaro joue ? Quand on baptise les sons comme les fourrés sur le fait la recita, la recita, la recita, la recita, la recita.
Extrait du Barbier de Séville, c'était l'air de Figaro. Franck Ferrand qui nous parle aujourd'hui de presse écrite en compagnie du journaliste Philippe Tesson et de Dominique Khalifa qui a co-dirigé l'ouvrage « La civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle » aux éditions du Nouveau Monde.
Et avec Marie-Ève Terrenti, Dominique Khalifa propose un article introductif en quelque sorte sur ce qu'est un journal qui s'appelle « Ordonner l'information », classé « Ordonner l'information » constitue pour les journalistes, écrivez-vous, une évidente nécessité. Il convient en effet chaque jour de composer les pages de la nouvelle édition, de donner une place à chacun des articles, de répartir les nouvelles, les dépêches ou les commentaires, mais ces exigences strictement fonctionnelles, à ces exigences se sont ajoutées deux autres sortes d'impératifs. Alors, les premiers impératifs dont vous nous parlez, ce sont des impératifs rédactionnels, internes en quelque sorte, et les seconds impératifs d'ordre externe, c'est répondre aux attentes du lectorat, en quelque sorte.
Le point est capital. Je crois que ce qui est majeur dans cette généralisation si fantastique de la presse au XIXe siècle, c'est les rythmes. Ce sont de nouveaux rythmes. Nous sommes face à un média qui était bien plus ancien, vous l'avez rappelé au début de l'émission, mais dont la généralisation, l'expansion incroyable, quantitative, va tout d'un coup modifier fondamentalement les rythmes de la vie. Qu'est-ce qui faisait les rythmes de la vie auparavant, lorsque le grand lectorat n'existait pas, les rythmes de la vie agricole, les rythmes des cloches,
les travaux et les jours.
Maintenant, effectivement, quelque chose va partir dans cette mécanique médiatique que le journal prend en main, dans les rendez-vous, dans les feuilletons qu'on veut pas rater. Gauthier disait à propos des mystères de Paris, de Gensu, les gens ont attendu de mourir pour connaître la fin des mystères de Paris. Hein, on pouvait pas. Bon, donc un rythme social complètement nouveau est mis en œuvre qui va affecter toutes, et je dis bien toutes les activités du 19e, toutes les activités de la vie sociale, de la vie politique, de la vie culturelle, de la vie scientifique, etc., etc.
Et du stress qui nous étreint finalement. Vive la presse qui nous aura mis sous tension.
Je voudrais ajouter, si vous permettez, deux choses. Il y a presse et presse, évidemment. C'est toujours très facile d'ailleurs de pratiquer ce genre de formule, mais il y a presse et presse. Vous avez parlé tout à l'heure de 600 journaux au 19e siècle, mais attention. Il y a deux catégories de journaux. D'ailleurs, oui, encore aujourd'hui, il y a le journal qu'on peut appeler caricaturalement une feuille d'avis, qui a donné d'ailleurs naissance à la presse locale et à la presse régionale, puis une presse plus éditoriale.
Il faut quand même le citer. Une presse spécialisée aussi, disons-le.
Et il y a une presse. Alors, à ce propos, je voudrais dire quelque chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites de l'ordonnancement, de cet effort qu'ont fait les journaux pour ordonnancer leur architecture, leur contenu. Ça veut dire pour rubriquer. C'est récent, le rubriquage. Et je regrette que vous n'ayez pas marqué. Ça date véritablement de l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Les journaux, autrefois, n'étaient pas rubriqués. Ils étaient très, très, très mal classés. La formulation y était mêlée, rubrique par rubrique, thème d'actualité, tout ça était assez désordonné. Et je dois rendre hommage à un éditeur qu'on ne salue plus aujourd'hui suffisamment, qui est Hubert Beuve-Méry. C'est lui qui, au lendemain de la guerre, a eu l'idée de reprenant un journal qui s'appelait Le Temps, d'en faire quelque chose d'extrêmement construit et architecturé, avec ce qu'on appelait les têtières, les têtes de rubrique.
C'est Le Monde,
économie, hein, politique, internationale. Et c'est devenu de plus en plus, les journaux sont devenus de plus en plus classés. Mais jusque 1950, les journaux n'étaient pas très, très ordonnancés.
Je peux pas vous laisser dire ça, parce que c'est pas juste. On parlait des grandes figures tout à l'heure. Hippolyte de Villemessant, qui est une grande figure, l'inventeur du Figaro, l'homme qui va faire du Figaro à partir du milieu du Second Empire un grand journal, est tellement obsédé par cette question du rubriquage et de l'ordre qu'il va même publier des vademécum pour expliquer à ses journalistes voilà où il faut placer telle chose, voilà où...
Oui, mais est-ce que c'est aussi lisible pour le lectorat? C'est ça la question.
Oui, mais là où je vais rejoindre Philippe Tesson, c'est de dire que c'est un autre ordre. On est dans une autre forme d'ordre, mais le rubriquage est fondamentalement quelque chose qui organise
une obsession.
C'est pas le même que le nôtre. Et les grands journaux populaires de la fin du 19e siècle inventent les grandes manchettes, les surtitres, les pages combinées, les pages composées.
Là, on est déjà dans la presse populaire de la toute fin 19e.
Avec une grande maîtrise de la mise en page.
Quand on remonte un peu plus tôt, par exemple, sous la monarchie de Juillet ou même au début du Second Empire, on est encore dans une espèce de grand mélange, oui. Et pour avoir beaucoup consulté cette presse, je sais qu'il faut, pour trouver un article parfois, s'y reprendre à six fois. Hein,
c'est un mouvement qui est continu tout le long du siècle, mais avec des étapes quand même très bien identifiées.
On pourrait consulter les journaux d'après la Libération, les journaux de 45 à 50, c'est un désordre absolument infini. Je ne vous parle pas de la hiérarchie, je vous parle du classement. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire le rubriquage. Et aujourd'hui, les lecteurs seraient incapables de lire un journal qui ne soit pas rubriqué. Enfin, en tout cas, ils en auraient du mal.
Par rubrique, mais c'est
encore une fois, ça date, oui. Moi, je date, c'est l'introduction du rubriquage à la deuxième moitié du 20e.
Nous sommes à l'heure où il faut évidemment faire un certain nombre de choix. J'aurais bien aimé qu'on parle de la presse féminine, notamment cette presse féminine qui apparaît très très tôt. Hein. C'est une surprise souvent. On réalise que dès les années 1730-40, il y a déjà des feuilles féminines.
La monarchie de Juillet invente presque tout.
Mais même un 100 ans plus tôt déjà, au 18e, on a déjà des journaux féminins, ce qui est assez étonnant. Et puis, on aurait bien parlé de la presse professionnelle aussi, c'est intéressant, qui est un secteur complet.
C'est d'ailleurs relatif à ce que je viens de dire.
Sur la spécialisation,
bien sûr. Rubriqué est né comme une presse segmenté comme le quotidien du médecin que j'ai fait moi, que j'ai créé en 70, dans les années 70, qui est vraiment le type même du quotidien rubriqué. Alors,
un mot peut-être, Philippe Tesson, sur ce qu'Internet doit à cette presse écrite et les journaux qui existent actuellement sur la toile. Est-ce qu'ils sont les héritiers de cette histoire-là?
Je suis disqualifié pour en parler, je ne pratique pas, puis j'ai dit que j'étais du 19e siècle, je ne pratique pas. Bien sûr, on est toujours héritier de quelque chose, et puis on apporte toujours quelque chose de nouveau. C'est une conclusion conciliante.
Et qui nous conviendra. Merci beaucoup, Philippe Tesson, c'est tellement plaisant de vous entendre dire « je suis un homme du 19e ». On y croirait presque. La civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse française au 19e siècle, s'est édité au Nouveau Monde sous la direction de Dominique Khalifa, de Philippe Régnier, de Marie-Ève Terrinti et d'Alain Vaillant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique Khalifa. Merci infiniment, Philippe Tesson. Je sens que vous allez revenir pour parler de plein d'autres choses. Merci.